Il est 8h ou presque et vous écoutez toujours Radio Campus sur le 92.1 en FM ou radiocampus.be. Et on vous a parlé jusqu'ici beaucoup de soirées, de sorties, etc. Mais il nous faut aussi parler de ce qui se passe en dehors, dans la ville. Car Bruxelles, ces dernières semaines, a été endeuillée par une certaine violence, beaucoup de fusillades, notamment liées au trafic de drogue. Et avec les nouveaux gouvernements qui arrivent cette année à Bruxelles et en Belgique, et des gouvernements qui penchent à droite, on peut s'attendre à une certaine réponse sécuritaire. Mais cette approche policière ne devrait pas nous faire oublier certains angles morts de cette approche, notamment la question des violences. Car Semira, Maouda, Lamine, Mehdi, Adil, Ibrahima ou encore Sourour, on n'oublie pas toutes ces victimes de violences policières dont les noms pose aussi la question du racisme qui peut être présent parmi nos forces de l'ordre. Et sur la question du racisme, heureusement, il y a des acteurs, des associations qui travaillent pour essayer d'aborder cette question difficile, et notamment le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, plus connu sous son nom, le MRAX. On a le plaisir ce matin d'accueillir une juriste du MRAX, Nisha Mboli. Bonjour Nisha.
Bonjour Hugo.
Merci beaucoup d'être là, comment vas-tu ?
Je vais bien.
Bon, désolé pour cette introduction un peu triste, mais c'est en même temps tout le thème en ce moment, car tu es ici en studio ce matin, c'est parce que le MRAX organise dans ses locaux, à partir d'aujourd'hui, une exposition consacrée à la question difficile des violences policières.
Tout à fait, on organise donc mercredi, jeudi et vendredi, donc du 19 au 21, une exposition sur les visages de la résilience sur la question des violences policières.
Donc c'est une série de portraits, portraits photographiques, mais aussi des portraits biographiques et un retour sur ce qui s'est passé. On parle quand même de 36 portraits qui nous ramènent jusque dans les années 90.
Exactement. On parle de 36 portraits. Ces 36 portraits représentent des faits connus de violences policières. Bien sûr, ces 36 portraits ne chiffrent pas les violences policières ici en Belgique. De toute façon, on n'a pas les chiffres sur les violences policières en Belgique. Les 36 portraits sont des faits connus qu'on a relatés dans la presse, dont on a tous et toutes entendu parler. On a voulu mettre ces visages à l'honneur pour dire que voilà, à l'heure actuelle, comme tu l'as précisé, les droits humains sont menacés. Et donc, la question des droits humains, la responsabilité de la Belgique à protéger ses citoyens, notamment via sa police, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Donc cette exposition, c'est ne pas oublier les visages de celles et ceux qui ont subi les violences policières, mais c'est aussi rappeler à l'État sa responsabilité de protection des citoyens, peu importe leur origine, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur genre, peu importe l'orientation sexuelle. Voilà, c'est vraiment mettre l'État face à ses responsabilités et parler de ces violences policières, mais également parler des droits du citoyen face aux violences policières.
Et c'est une question qui est assez difficile à aborder dans le débat public, on le voit ça depuis les années 90, où les manifestations en soutien aux victimes de violences policières, ce ne sont pas nouvelles, mais par contre les réponses, elles, tardent toujours à arriver.
Tout à fait, parce que pour une grande majorité de la population, la police est là pour nous protéger. Mais malheureusement, pour une autre partie de la population, ce sont les violences policières qui rythment leur vie au quotidien. Certaines personnes, quand elles subissent une infraction, ont peur d'appeler la police, de peur de se retrouver elles-mêmes de subir des violences policières. Donc, par exemple, la dernière fois, j'entendais le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur dire qu'il faut que la peur change de camp quand on parlait des fusillades en Anderlecht. Mais pour une certaine partie de la population, la peur de la police, elle est réelle, elle est là, elle existe.
Mmh. Et du coup, là, vous mettez en avant des cas assez forts, parce que voilà, il y a la violence en effet du quotidien, d'avoir la peur d'un contrôle d'identité qui ne serait pas motivé autre que pour du profilage ou des choses dans le genre. Puis il y a aussi des cas assez tragiques, par exemple, vous commencez, la première personne de votre série de portraits, c'est Adamou Semira, et là on est en 1998.
Exactement, parce que Semira Adamou, c'est comme quand on parle d'elle, on dit toujours, ils ont tué une femme, mais pas son combat. Semira Adamou, c'est l'image même de la violence d'État quand il s'agit d'étrangers. Parce que Semira Adamou, c'était une demandeuse d'asile qui a été tuée lors de son expulsion. Donc elle a été étouffée avec un coussin par des policiers. quand on dit ça, on voit la violence de ce qui s'est passé dans cet avion lors de son expulsion. C'est pour ça que Semira Adamou est le premier portrait. Bien sûr, il y a eu des faits de violence policière avant Semira Adamou, mais Semira Adamou, c'est l'image de la résistance, c'est l'image de 6000 personnes ont quand même manifesté après la mort de Semira Adamou, et il y a eu la démission du ministre Tobak, ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc c'est par elle qu'on a commencé, parce qu'on ne l'oublie pas, malgré tous les autres faits qui ont pu... On n'oublie pas les autres également, mais Semira Adamou est celle qui a mené à cette grande mobilisation des citoyens et citoyennes belges.
Oui, et après se pose un peu la question de comment la police affronte elle-même la question du racisme à l'intérieur de sa structure, notamment parce qu'une des choses qui ressort dans la série de portraits que vous faites, c'est le nombre de personnes qui meurent dans des commissariats, dans des zones qui sont véritablement des boîtes noires, parce qu'en fait on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, et la police a tendance à ne pas donner les images, les faits, etc.
Quand on parle de la police, on parle du corps de police, on parle de l'esprit de corps. Et sur ces questions de racisme ou discrimination raciale au sein de nos forces de l'ordre, il y a un esprit de corps. On ne dénonce que très rarement les faits de racisme et de discrimination commis par un collègue ou une collègue. On fait vraiment esprit de corps. On l'a vu avec l'affaire Chovanec, les photos qui sont sorties. Heureusement qu'il y avait ces photos pour montrer la violence de ce qui s'est passé dans cette cellule.
Est-ce que tu peux un peu nous dire que, enfin, c'est-à-dire que Chovanec...
Chovanec a été... il est, soi-disant, il serait mort dans la cellule, il aurait fait une crise, mais les images montrent des policiers, dont un sur lui et une autre debout faisant le salut nazi.
Mmh. Oui, donc, vraiment des images vraiment accablantes là-dessus. Okay. Où on pense aussi à Sourour Abouda, qui est morte il y a maintenant 2 ans, et qui, dans un commissariat de la rue Royale, au départ, la police a parlé d'un suicide.
Exactement.
Et avant qu'il ne sorte des images qui montrent qu'il y avait une altercation avec la police. Et ça pose aussi la question de comment la justice, elle aussi, réagit par rapport à ces questions, parce qu'on a pu voir que dans le cas de Sourour, par exemple, le parquet a d'abord accréditer cette thèse du suicide sans prendre de distance par rapport à la police.
Et cette attitude de la justice a nourri aussi cette légende urbaine selon laquelle la police, on ne peut pas condamner la police, on ne peut pas poursuivre la police, ça ne sert à rien de porter plainte contre la police parce que de toute façon les policiers ou policières ne seront jamais condamnés. Malheureusement, ça nourrit cette légende urbaine, et la relation entre la police et la justice est toujours un peu floue, un peu obscure, et on n'est pas surpris quand on n'a pas de condamnation dans des affaires de violence policière. Par exemple, moi, je me rappelle de l'affaire Boutafala, où là, il y a eu vraiment reconnaissance par la justice belge des violences policières que Khaled Boutafala avait subies de la part de la police après son arrestation. Mais en même temps, la police, il était condamné pour rébellion. Parce que souvent, c'est le cas quand on résiste à la violence que l'on subit de la part de la police, soit on se ramasse une plainte pour rébellion ou pour outrage à agent. Et donc, on a tendance à... Même dans cette affaire Khaled Boutafala, on a eu l'impression que les juges, parce que c'était devant la cour d'appel, les juges ont donné plus de crédit au récit policier concernant la rébellion, même s'ils reconnaissaient qu'il avait subi des violences policières. L'affaire Boutafala, par exemple, est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, en 2022, a dit que M. Boutafala n'avait pas eu droit à un procès équitable. Et donc, on voit qu'il y a quand même un problème dans le traitement judiciaire des violences policières dans notre pays.
Oui, et c'est terrible que ça doit monter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour régler ce genre d'affaires. Parce que voilà, mais en même temps, tu parles de légende urbaine sur le fait qu'il y aurait une impunité totale sur ce genre d'affaires. Ou est-ce que, si tu vous qui avez fait un peu les portraits, qui avez fait une sorte de chronologie de différents cas, quelle est la réalité derrière ? Est-ce qu'il y a vraiment des obstacles ? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a des obstacles ? Est-ce que vraiment ça ne sert à rien ? Est-ce qu'il y a moyen de le faire ? Est-ce que le comité P ou les enquêtes judiciaires fonctionnent véritablement à terme?
Je ne pourrais pas donner une réponse, parce qu'il faut le dire, les forces de l'ordre en Belgique sont très contrôlées, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quelque part où ça ne fonctionne pas, où les plaintes n'aboutissent pas ou disparaissent. Je me souviens d'un cas d'une dame que j'avais accompagnée, et on parlait de racisme, de discrimination raciale à l'époque, et cette dame a entendu parler du MRAX à la télé, et elle a décidé de nous contacter. Et après notre premier contact, je suis allée la voir et j'apprenais qu'elle avait, il y a de cela 5 ans, elle avait déposé plainte auprès du comité P concernant des violences policières qu'elle avait subies. Et donc je l'ai aidée à prendre contact avec le comité P. Elle avait encore la trace de sa plainte, hein, mais au niveau du comité P, on ne retrouvait pas sa plainte. Ah oui, et ça faisait 5 ans qu'elle attendait.
Oui, et on voit sur la galerie de portraits que vous faites... Ces temps d'attente, surtout.
Le temps d'attente, parce que c'est un peu le combat de David contre Goliath, où le citoyen doit se battre face à un policier qui, lui, dispose des moyens pour pouvoir contrer. Parce qu'on a tendance on s'est rendu compte que très souvent, quand une personne subit des violences policières et qu'elle dit « je vais porter plainte », ah ben tiens, une plainte de l'autre côté, ben la réaction de la police est rébellion ou outrage. Or, outrage à agent ou rébellion, c'est tout à fait humain de vouloir résister quand on subit une violence illégitime. Ben, l'instinct primaire, c'est de résister. Ben, notre résistance correspond à de la rébellion aux yeux de la police. C'est pour ça que y a pas seulement le MRAX, hein. Il y a plein d'associations. Nous, on est sur l'angle de la discrimination, mais il y a d'autres associations comme Police Watch de la Ligue des droits humains qui travaillent sur la question des violences policières. On a également, sur Internet, on trouve par exemple technopolice.be, on trouve plein de renseignements, plein d'outils sur comment justement lutter contre les violences policières. Parce que souvent, il y a un récit qui est construit. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un récit qui est construit de l'autre côté par la police, mais le récit de la personne qui subit les violences policières, elle est tue. Elle est même invisibilisée parfois dans les médias. Je me souviens d'une affaire où c'était un procès pour violences policières. On avait l'impression d'être au procès de la personne qui avait subi les violences policières. On ne s'intéressait plus aux policiers qui étaient des délinquants, disons-le. On s'intéressait plus aux jeunes qui avaient subi les violences policières, où on faisait un historique. Oui, mais vous savez, ils n'allaient pas à l'école. Donc, c'était le procès du jeune plutôt que le procès des violences policières. Et ça, on a tendance à minimiser ce côté-là.
Oui, parce qu'on parle du racisme, voilà, comme qui peut être parfois un motif de violence, mais ça peut être aussi un ressort dans la communication de la police. Exactement. Elle-même. On pense bien sûr au meurtre de la petite Maouda. Exactement. Cette enfant kurde de 2 ans qui a été tuée quand elle avait 2 ans en 2018. C'était lors d'une course-poursuite entre la police et un van dans lequel étaient des personnes migrantes. Elle a été abattue par un tir policier, mais ce jour-là, la police a affirmé que les migrants avaient pris l'enfant et l'avaient utilisé comme bélier pour détruire la vitre. Une version qui a été reprise et par le parquet et par les médias. Exactement. À l'époque. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours avant que la vérité des faits ne soit rétablie. Il y avait vraiment une diabolisation atroce pour le coup des victimes.
Et ça, justement, ce récit construit et partagé par les médias sans vérification.
Et là-dessus, oui, vous, en tant que MRAX, parce que vous abordez la question du racisme, pas seulement au sein de la police, mais dans toutes les structures, vous voyez vraiment, vous essayez d'offrir des contre-récits sur ce genre de choses.
On essaye, mais ce n'est pas toujours facile, parce que quand on arrive avec une thématique comme le racisme, tout de suite, ça braque de l'autre côté. Donc, vous dites que nous sommes racistes. On ne sait pas si vous l'êtes. Mais en tout cas, nous constatons que dans tel cas, le comportement que vous avez adopté peut être interprété comme du racisme. Et donc, il faut, à un moment donné, remettre les choses au centre et attirer l'attention de nos politiques, de nos policiers, que certains comportements sont racistes. Par exemple, les protocoles policiers amènent à de la discrimination. quand vous allez descendre sur le terrain et qu'on vous dit, ben, on va aller dans le quartier, on entre souvent le quartier nord où il y a telle population, ils sont plus dans le trafic de drogue, donc on va catégoriser des personnes appartenant à cette catégorie de personnes. Donc on va dire quoi ? Ben, tiens, celui-là, il ressemble à le descriptif qu'on a. Et donc, on va contrôler l'identité de ces personnes-là. Et c'est très humiliant de se faire contrôler alors qu'on n'a rien fait. Imaginez, vous sortez avec des amis, vous vous baladez avenue Louise, et c'est vous qu'on contrôle. Et quand tu regardes autour de toi pour voir ben, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis contrôlée et pas mes amis, tu remarques que c'est ta couleur de peau. Tu remarques que c'est... Par exemple, Hugo, toi, tu pourrais être contrôlé.
Oui.
Toi, tu pourrais être contrôlé parce que tu ne corresponds pas à l'image d'une société dans laquelle l'ordre règne. Parce que c'est ça, ils maintiennent l'ordre. Oui. Et Hugo, avec ses cheveux longs, avec son pull à capuche, ne correspond pas à l'ordre. Toi, tu pourrais être contrôlé.
Oui. Je comprends là-dessus l'aspect vraiment discriminant et qui n'est pas seulement une question de personnalité, mais vraiment de structure.
Exactement.
Et c'est vraiment là-dessus parce que, oui, parfois on a l'impression que cette accusation de racisme, elle est tellement forte qu'elle a tendance à paralyser les choses et à d'autant plus les bloquer.
Exactement.
Dans ce genre de choses.
La question du racisme, discrimination raciale au sein de nos forces de l'ordre amène la question de la discrimination structurelle. Elle n'est pas seulement individuelle, il faut arrêter de dire que c'est individuel, elle est structurelle. Il faut revoir la formation de nos policiers, il faut une formation continue et continuée de nos policiers sur ces questions des préjugés, des stéréotypes et du racisme. On a parlé énormément de la question du profilage ethnique, du profilage racial. Oui, le profilage ethnique, l'Europe, a dit que c'était la forme moderne de la discrimination. C'est-à-dire qu'un policier va contrôler ou enquêter dans un dossier sur base de la couleur de peau, de l'origine, de l'orientation sexuelle, du genre de la personne. C'est de la discrimination et c'est puni. Et on sait que le profilage fait partie du travail policier. On a énormément de films, on a vu par exemple la série Esprit criminel où on a des profilers. On voit que ça fait partie du travail policier de faire du profilage. Or, sur le terrain, dans la réalité, ça conduit à une rupture de confiance vis-à-vis de nos policiers. Ça amène une division au sein de la population. Et bien sûr, quand on arrive avec cette question des discriminations au sein de la police, ah oui, ce sont les bobos de gauche qui viennent avec cette question. Non, c'est une réalité et il faut l'affronter. À un moment donné, on doit affronter les démons au sein de notre police.
Et en attendant que le monde politique, policier, judiciaire ne s'empare de ces questions véritablement et implémente ces changements, et on sait que le MRAX milite beaucoup pour ça auprès des pouvoirs publics, vous faites aussi un travail de sensibilisation auprès du public. Et d'ailleurs, en parallèle de l'exposition, donc l'exposition qui, je rappelle, se passe à partir d'aujourd'hui et pour les trois prochains jours, rue de la Poste numéro 37 à Saint-Josse dans vos locaux, en parallèle, vous organisez un atelier citoyen sur la question.
Exactement, parce qu'il faut connaître ses droits. C'est très important de connaître ses droits. Mais connaître ses droits, ça ne veut pas dire les invoquer n'importe comment et à tout moment. Il faut aussi être stratégique dans la manière dont on invoque ses droits. Et c'est un rappel que je fais souvent quand je donne cet atelier sur mes droits. Hein, c'est pas parce que je connais mes droits que je dois être... Je dois être virulent. Parce que comme je l'ai dit, face à une personne qui réagit à une violence illégitime, la police, certains policiers ont tendance à sortir rébellion ou outrage.
Oui, comme une arme.
Voilà.
Ça.
Donc, connaître ses droits, c'est aussi outiller les personnes sur comment je dois réagir face à un contrôle d'identité abusif. Comment je dois réagir face à une arrestation abusif. Quels sont mes droits quand je suis arrêtée ? C'est très important de connaître ses droits, parce que quand on connaît ses droits, on est préparé et on évite des rébellions ou outrages à outrance. Oui.
Donc voilà, il est possible de s'inscrire pour cet atelier citoyen qui
Exactement.
Se passera...
Donc elle se passe aujourd'hui, mais on va également en organiser plusieurs séances jusque fin juillet.
Et en parallèle, vous faites aussi un travail où des personnes qui s'estiment victimes d'actes racistes, que ce soit de la police, mais aussi en dehors, peuvent contacter le MRAX pour leur demander assistance, conseils, notamment juridiques.
Exactement. Notre service juridique est spécialisé que sur les questions des discriminations dites raciales. Donc c'est tout ce qui renvoie à la couleur de peau, la prétendue race, l'origine. Et voilà, on est là pour ça, où on donne des conseils juridiques, où on analyse les faits avec la personne qui vient nous consulter. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que le fait d'outiller la personne, parce que quand on reçoit la personne en permanence, on l'outille aussi sur la manière, si elle décide d'aller porter plainte à la police, parce que on doit malheureusement aller à la police pour porter plainte quand on subit une infraction, on prépare aussi la personne à cette étape de la plainte. Comment est-ce que je dois réagir? Comment je dois faire face? Parce qu'on a constaté également que dans les faits de discrimination et de racisme, quand il faut aller porter plainte à la police, parfois la police est le premier obstacle à la plainte.
On n'en a pas parlé, mais il y a aussi comment la police gère les cas d'actes de plainte liés à des questions.
Sur cette question-là, et pour être tout à fait transparente sur cette question-là, des choses sont faites et ont été faites par la Belgique pour... Voilà. Comment est-ce que le policier doit traiter les plaintes de discrimination et de racisme venant d'un citoyen, lorsque c'est un autre citoyen qui commet les faits, bien sûr.
Merci beaucoup, Nisha, d'être venue en studio. Juste pour rappeler que du coup, l'exposition Les Visages de la Résilience aura lieu du coup, les 3 prochains jours, rue de la Poste numéro 37 à Saint-Jos. Et puis le MRAX reste là justement pour aider à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Merci. Juste une petite précision. Donc, pour aujourd'hui, l'exposition, c'est de 18h30 à 21h. Et jeudi et vendredi, c'est de 10h à 16h. Comme ça, vous venez rencontrer les travailleurs et travailleuses du MRAX.
Bien. Merci beaucoup, Nisha.
Avec plaisir, Hugo. I don't know how to behave.